Rebonjour à ceux qui étaient déjà là tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Thierry Froger autour de son nouveau roman Les Nuits d'Ava, paru à la rentrée aux éditions Actes Sud. Alors Thierry Froger, vous avez d'abord publié un recueil de poèmes chez Flammarion, Retard légendaire de la photographie, puis un premier roman paru il y a 2 ans chez Actes Sud, Sauf qui peut la révolution. Vous étiez venu en parler ici à Manosque, un livre très ambitieux, très jubilatoire, qui mettait en scène à 200 ans d'intervalle Danton et Jean-Luc Godard. Et dans ce nouveau roman, vous reprenez le même principe narratif, puisque cette fois encore, vous tissez ensemble 2 histoires, un épisode de la vie d'Ava Gardner et l'histoire de l'origine du monde de Gustave Courbet. Tableau perdu, caché, retrouvé. L'actualité vient d'ailleurs d'apporter ou pas de l'eau à votre moulin. Nous allons en reparler puisque l'identité du modèle vient d'être dévoilée par un chercheur. Mais si on revient à Ava Gardner, pour planter un peu le décor, nous sommes à Rome en 1958. Ava Gardner s'ennuie ferme sur un tournage de film inspiré de la Maja desnuda, la Maja nue de Goya. Et puis, une nuit d'ivresse, elle va embarquer le chef opérateur du film, Giuseppe Rotuno, dans un périple alcoolisé, et elle va lui proposer de reproduire en photographie les grands nus de l'histoire de la peinture, reproduire ou en tout cas s'en inspirer, et vous embarquez le lecteur dans une enquête absolument échevelée sur les traces de cette image manquante, puisque ces photographies vont disparaître, et également on est embarqué dans les coulisses de la création de la toile impossible de Gustave Courbet, cette fameuse origine du monde. Enquête menée par Jacques Pierre, qui était le même narrateur que dans votre précédent roman, Sauf qui peut la révolution. Est-ce que ce roman est parti d'une passion adolescente pour Ava Gardner ?
Bonjour à tous, d'abord. Je ne sais pas si je peux dévoiler d'emblée mes passions adolescentes. Mais c'est vrai qu'Ava Gardner m'a plutôt toujours séduit. Et quand j'ai vu ce film très oubliable qui s'appelle La Maja desnuda d'Henri Coster, qui est un film qu'elle a tourné en août 1958 à Rome, qui marquait la fin de sa collaboration avec la MGM et qui allait enfin la libérer de 17 ans de contrat avec le studio. Je me suis demandé bêtement si elle avait posé nue dans ce film, comme le fameux tableau de Goya. J'ai regardé le film, et évidemment, j'ai été déçu. Et c'est le point de départ du roman. Il y a 2 points de départ, en fait. Et après, un peu par hasard, j'ai découvert que Federico Fellini, donc 2 ans plus tard, allait tourner La Dolce Vita, et le personnage que tout le monde connaît, d'Anita Ekberg, suivi par les paparazzi, était inspiré par les frasques d'Ava Gardner quelques années plus tôt, à Rome. Et la profession de paparazzi s'est inventée en août 58. Et le roman commence d'ailleurs par une course-poursuite où ces paparazzi poursuivent Ava Gardner. Donc ces 2 faits, la déception de ne pas voir Ava Gardner nue dans un film ou en photographie, plus cette nouvelle profession de paparazzi qui propose un nouveau rapport aussi à l'image et à la photographie, j'avais là quelque chose qui pouvait être un point de départ pour un roman.
Et précisons, puisque vous parlez de Federico Fellini, que Giuseppe Rotuno, le fameux chef opérateur, a travaillé avec Fellini, alors non pas sur La Dolce Vita, mais sur des films postérieurs.
C'est ça, il est toujours vivant d'ailleurs, il a 95 ou 97 ans actuellement. Ça a été le chef opérateur de Visconti. Il a tourné aussi il a travaillé avec des réalisateurs américains, et puis il a travaillé avec Fellini à partir de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80. Et c'est vrai que vous disiez que le roman mêle plusieurs fils, et dans ma manière de travailler, je me documente, et c'est au fur et à mesure des découvertes que des rapprochements peuvent s'opérer, et que quand je découvre que Rotuno a travaillé avec Fellini, qui s'est inspiré d'Ava Gardner, je sens qu'il y a quelque chose qui peut peut-être fonctionner.
Alors, pour entrer en matière, je voudrais lire le tout début de ce roman pour qu'on voit à quel point votre écriture va vite et à quel point c'est fluide. Je crois avoir vu, comme dans un songe, cette voiture qui filait dans les rues désertes de Rome vers 4h20 du matin, poursuivie par les éclairs d'un cyclope. La Facel Vega ou la Ford Thunderbird semblait rouler à l'aveugle et zigzaguait sur les pavés tièdes, éclairés par le gros œil circulaire et intermittent du flash brown de deux paparazzi. Leur décapotable répétait le trajet erratique de la première voiture que conduisait Ava Gardner avec la grâce et l'inconscience des merveilleux pochards. À ses côtés, tout aussi ivre mais néanmoins apeuré, l'acteur Anthony Franciosa bégayait mollement des lambeaux de prière qu'Ava Gardner ne pouvait entendre, hurlant et riant à chaque coup de volant qui faisait crisser le caoutchouc sur le basalte noir. Les ailes de la voiture frôlant les murs comme on caresse et comme on griffe. Franciosa se cramponnait à son siège, tétanisé par l'alcool, la peur et les jurons d'Ava. Voyant dans le rétroviseur que les poursuivants ne perdaient pas de terrain, l'actrice a soudain eu l'intuition stratégique de les retarder en lançant par la fenêtre tout ce qui lui tombait sous la main, lâchant imprudemment le volant et tirant de son sac des objets vite projetés en direction de la décapotable. Celle-ci a finalement ralenti sans que ces pauvres projectiles en soient la cause, les deux photographes s'avisant de la plus grande vélocité de la Facel Vega ou de la Ford Thunderbird, ainsi que de la mauvaise tournure que pourrait prendre cette course-poursuite nocturne où chacun semblait manquer de sang-froid et de lucidité dans la conduite des événements comme des véhicules. Voilà, on est absolument plongé tout de suite dans cette époque et sur ce tournage. C'est d'abord une ambiance que vous restituez.
Oui, enfin, du moins, c'est ce que j'ai essayé. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un seul narrateur, contrairement au premier roman, mais qui était un des personnages. C'était pas le narrateur du premier roman, c'était un des personnages. Et là, j'ai senti que j'avais besoin d'une seule voix qui porte l'ensemble des récits. Et donc, à l'intérieur d'un même chapitre, voire d'une même phrase, parfois, on peut glisser de Rome en 1958 au Paris de Courbet en 1866, par exemple. Et en même temps, le narrateur, donc, il part à la recherche de ces photographies fantômes d'Ava Gardner, mène d'une certaine manière une quête des origines qui est aussi une enquête sur sa propre enfance et sur son adolescence et sa jeunesse.
Ce narrateur, est-ce que c'est votre alter ego, une sorte d'alter ego de fiction? Alors, il a votre âge au moment de l'action qui se passe en 1995. C'est à peu près l'âge qu'aurait eu votre père à cette. Enfin,
ça m'intéressait dans cette confusion des temps, ce tressage des temps. C'est que le narrateur, en fait, il avait une date de naissance qui était indiquée dans le premier roman. Donc, il est né en 1950 à peu près, ou 1948. La narration se passe en 1995, au moment où l'Origine du Monde a intégré les collections du musée d'Orsay. Et le narrateur tombe par hasard sur un article de journal de Libération qui s'appelle La Comtesse au cul nu et qui évoque la possibilité de photographie de nu d'Ava Gardner. Et là, le narrateur, se rappelant ses émois adolescents, et qui s'ennuie un peu, se dit que c'est un bon moyen pour occuper ses journées que de partir à la recherche de ses photographies. La question
était, est-ce que ce narrateur est votre alter ego, voilà, ou une sorte de double de fiction?
C'est assez compliqué puisqu'en 1995, il a 45-47 ans, ce qui est un tout petit peu plus que l'âge que j'avais quand j'ai écrit le roman. Mais en fait, il a l'âge de mon père. Ou l'âge de mes parents. C'est-à-dire que les souvenirs d'enfance qu'il évoque sont d'une enfance en province pendant le gaullisme. Ce n'est pas des choses que j'ai connues, mais c'est plutôt le Tour de France, la passe d'armes entre Anquetil et Poulidor au Puy de Dôme en 1964. Ça, c'est des choses que je n'ai pas connues, mais que mon père m'a racontées ou que j'ai entendues. Donc, ça m'intéressait aussi de faire ce léger glissement, ce qui me permettait aussi de mettre à distance qu'il n'y ait aucune part autobiographique dans le récit.
Alors, on le retrouve lui, mais on retrouve aussi Rose, sa fille d'une vingtaine d'années, qui était aussi déjà un personnage de Sauf qui peut la Révolution, qui avait déjà un goût certain pour les hommes mûrs, puisqu'elle avait une histoire avec Jean-Luc Godard. Et donc là, voilà, elle reproduit ce que son père considère être comme une erreur. Et puis, il y a aussi ce décor de l'île de Chalonne sur la Loire, qui était aussi dans le premier roman. Et au fond, on pourrait dire que cette île, c'est un peu votre île d'utopie.
Oui, d'une certaine manière, puisque l'île est le lieu où se passait le premier roman, et c'est le lieu où vit le narrateur Jacques, donc on la retrouve encore dans ce roman. Et c'est à la fois le lieu de l'utopie, donc du non-lieu, et de l'Uchronie, et donc du mélange des temps. Donc ce passage de l'utopie à l'Uchronie m'intéressait, et le motif de l'île me semblait évident.
Vous parliez à l'instant de cet article de Libération écrit en 1995 par Hervé Gauville, sur lequel tombe Jacques-Pierre, votre narrateur. Alors, cet article, il a existé, mais pas vraiment. Il s'appelait « L'outrage fait à Courbet » et non pas, évidemment, la comtesse au cul nu. Et on voit bien avec cet exemple à quel point il y a un jeu en permanence entre le réel, la fiction. Voilà, vous partez d'une chose réelle, puis vous glissez vers la fiction sans que le lecteur s'en rende forcément compte, ça rend un peu fou en fait.
Moi, ça m'arrive de ne pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux, parce que donc il y a tout un travail de documentation en amont, et après, au moment de l'écriture, je laisse ça un peu de côté, je reprends juste les notes. Et il y a parfois des moments où je ne sais plus si c'était une hypothèse, une chose qui s'est réellement passée. D'autant plus que dans le cas d'Ava Gardner, finalement, c'est pas tant de choses que ça. Il y a eu plusieurs biographies qui ont été publiées, mais qui répète un peu paresseusement toujours la même chose. Et il y a beaucoup de trous, de manques, ou d'insuffisances dans le récit de sa vie, ce qui me permet de m'engouffrer, que la fiction puisse se déclencher.
Mais ce qui vous intéresse en littérature, c'est de relier les choses entre elles.
Oui, de faire des liens, de rapprocher ce qui a priori ne et ça c'est très godardien comme geste. Effectivement, venant pour ma part des arts plastiques, c'est vrai que dans mon travail littéraire, il y a une dimension de montage et de collage, de rapprochement, de temps, de personnages, parce que Courbet et Ava Gardner, a priori rien ne peut les rapprocher, tout comme Danton ou Jean-Luc Godard. Et c'est ce travail de rapprochement et de travail sur les images, puisque dans le premier roman, il s'agit d'un film sur la Révolution française que Jean-Luc Godard ne fera pas, et ici d'images dont on ne sait pas vraiment si elles sont le fruit de la rêverie du narrateur ou si elles ont réellement existé.
Mais puisque vous parlez précisément du vocabulaire cinématographique, sauf qu'il peut la révolution, on peut parler de collage, en effet de montage. Dans ce livre-là, on pourrait plus parler de fondu enchaîné, c'est-à-dire que les coutures qui étaient volontairement visibles dans Sauf qu'il peut la révolution, là, sont complètement gommées. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on passe d'Ava Gardner à Courbet, à Jacques-Pierre, à l'intérieur même d'un chapitre, de manière extrêmement fluide et presque sans qu'on s'en rende compte.
Oui, c'était vraiment une volonté au départ. Je ne voulais pas refaire le même roman que le premier. Et le terme que vous avez employé est tout à fait juste, par fondu enchaîné. Je voulais vraiment trouver une forme de fluidité pour porter ces trois récits et non pas les juxtaposer comme dans le premier.
Alors justement, le lien entre Ava Gardner et Gustave Courbet, comme ça, a priori, paraît un petit peu étrange. Et finalement, alors, il y a beaucoup d'hypothèses qui circulent autour de la création de l'origine du monde.
Je vois de quoi vous voulez me parler.
Voilà, depuis quelques jours. Mais alors, vous, ça, on va reparler de l'identité du modèle, mais le lien, vous le faites par la photographie. C'est-à-dire, l'hypothèse forte de votre livre, c'est de dire Courbet a travaillé non pas à partir d'un modèle, mais à partir d'une photographie.
Ça, j'en suis assez convaincu. Je pense que j'imagine assez mal qu'une femme ait pu poser avec une proximité comme ça pour l'origine du monde. Et l'origine du monde a été peinte en 1866. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de photographies érotiques qui circulent sous le manteau, en particulier les photographies d'Auguste Belloc. Et ça me semble assez plausible que Courbet se soit inspiré de photographies érotiques de l'époque, d'autant plus que ce cadrage assez violent, puisque c'est, Maxime Ducamp disait, une femme sans tête, sans jambes et sans bras, et un cadrage typiquement photographique. Et comme le roman part du film sur Goya, donc ça renvoie à la peinture, Ava Gardner reprend en photographie des tableaux, ça me permettait de continuer ce va-et-vient et ce dialogue entre la photographie et la peinture.
Alors, je voudrais lire le début du troisième chapitre. Donc là, on est au mois de juillet 1866. Comme tout un chacun ignorant sa fin proche, le Second Empire vivait ses derniers moments avec une insouciance qui pouvait confiner à l'indécence pour qui avait le recul avantageux de quelques 130 années. Je ne dénie pas cette position privilégiée de l'observateur et de l'historien, même si elle peut obliger à broder un peu quand la vision se floute et que les sources manquent. En ce début du mois de juillet 1866, Khalil Bey, richissime diplomate turco-égyptien, collectionneur d'œuvres d'art et de jolies femmes, rendit visite à Gustave Courbet dans son atelier situé rue Hautefeuille à Paris. L'homme semblait très intéressé par le grand tableau Vénus et Psyché, mais celui-ci avait été vendu la veille à un agent de change sous condition de quelques retouches visant à augmenter les draperies couvrant Vénus et sa pudeur. Calilbé insista, prêt à surenchérir, voire à commander une copie, ce que le peintre refusa car il avait une bien meilleure idée. Il proposa à son visiteur de lui peindre sur un format similaire la suite de Vénus et Psyché, c'est-à-dire la rencontre ensommeillée des deux jeunes filles enlacées sur la couche. Le diplomate ottoman trouva l'idée excellente, mais le prix, 20 000 francs, un peu élevé, car il ne fallait tout de même pas exagérer sa générosité ni sa diligence à dépenser les 15 millions de l'héritage paternel, d'autant qu'il connaissait les prix du marché. Les deux hommes discutèrent âprement et s'accordèrent tout à coup, comme par enchantement ou par la connivence secrète liant parfois deux personnes totalement étrangères l'une à l'autre, pour inclure dans la commande un petit tableau, une toile impossible. Courbet et Calilbé avaient les yeux brillants et pas seulement à cause du vin qu'ils buvaient pour fêter la transaction et la chair des images à venir. Calilbé se demanda tout de même comment sa maîtresse, Jeanne de Tourbet, allait réagir quand il lui exposerait le marché. Alors, votre hypothèse à vous, c'est que le modèle, c'était la maîtresse de Calilbé, l'une des nombreuses maîtresses de Calilbé, Jeanne de Tourbet.
Oui, tout ce que vous lisez dans les journaux depuis quelques jours, c'est totalement faux. Hein. Je tiens à le préciser. Bon, j'ai pas lu le livre encore.
Mais de bon, Claude Chope.
Voilà. Mais depuis une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont circulé sur, et c'est ça qui est intéressant, sur le fameux visage de l'origine du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, soi-disant, on avait trouvé la tête. On voyait bien que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc moi, mon hypothèse, c'est que ce serait Jeanne de Tourbet, qui était une semi-mondaine, une courtisane du Second Empire, qui a été la maîtresse de beaucoup d'écrivains et de Calilbé. Flaubert lui écrit des mots assez lestes dans plusieurs lettres qu'on a retrouvées. Et Jeanne de Tourbet m'intéressait car elle a un destin assez particulier puisque, après avoir posé ce que je suppose pour l'origine du monde via le truchement d'une photographie, elle a fini sa vie du côté de l'Action française, puisqu'elle a légué toute sa fortune à l'Action française, et donc proche de Léon Daudet, dans cette espèce de marigot fin de siècle nationaliste et antisémite, il faut le dire. Et donc ce passage de Courbet, qui était, comme vous le savez, communard à la droite la plus réactionnaire du début du XXe siècle, me semblait assez intéressant.
Mais puisqu'on parle de la photographie, hein, c'est vraiment le centre de ce roman, puisque le narrateur parle aussi de sa propre découverte de la photographie, et au fond, sa découverte du désir, hein, enfin de l'ellipse qui suscite le désir.
Oui, parce que il revient sur ses premières photographies où effectivement il recadrait parfois des photographies d'Ava Gardner pour les agrandir. Et il y a toute une partie du roman où il se remémore sa jeunesse et son apprentissage chez un photographe dans son village dans l'Aube. Il comprend très vite que ces photographies d'Ava Gardner constituent pour lui une forme de fil à son existence qui est, pour le reste, pas très folichonne.
Mais alors, il y a une chose qu'il faut quand même éclaircir, c'est qu'en 1958, l'origine du monde était caché, enfin, on ne savait pas où était passé ce tableau. Donc comment Ava Gardner en 1958 a pu avoir vent de ce tableau et vouloir reproduire cette...
C'était un gros problème, effectivement. Vous soulevez vraiment un gros problème que j'ai eu pendant l'écriture, qui m'a causé quelques nuits blanches, puisque effectivement l'origine du monde a été découverte que dans les années 90, quand on a su, parce qu'elle était chez Lacan depuis le début des années 50. L'origine du monde a eu un destin assez étonnant puisqu'on a perdu sa trace à la fin du 19e siècle. Après, elle a été dans les collections d'un baron hongrois, je crois, avant d'être confisquée par les nazis, puis par l'armée rouge, avant de finir à la prévôté dans la maison de campagne de Lacan. Et en 58, presque personne ne connaissait l'existence de l'origine du monde. Mais j'ai découvert qu'en 1930, il y a un livre allemand qui s'appelle, je ne sais plus en allemand, un livre érotique allemand.
J'avais noté Die Großen Meister der Erotik.
Voilà. C'est allemand. Et à la page, je ne sais plus combien, il y a une reproduction de l'origine du monde qui est sans doute une reproduction d'une reproduction, qui est probablement celle que Magritte avait réalisée parmi d'autres productions de travaux alimentaires dans les années 30. Et ce livre allemand a circulé un peu sous le manteau dans les milieux surréalistes. Et Ava Gardner a été proche de Man Ray et d'Albert Lewin, Albert Lewin qui est le réalisateur de Pandora en 1951. Et donc j'imagine, très naturellement, et c'est comme ça que ça s'est passé, que Man Ray ou Albert Lewin lui avait offert ce livre au moment du tournage de Pandora.
Mais ce qui est absolument formidable, c'est que en fait, tout est plausible, c'est-à-dire que vous vous autorisez tout et c'est absolument plausible.
C'est ce que c'est vrai, hein, vous pouvez vérifier. Le livre existe. Mais quand j'ai découvert ce livre, ça m'a j'étais très content.
Mais est-ce que quand vous travaillez comme ça sur des faits que vous emmenez sur des chemins de traverse, est-ce que vous pensez aux historiens? Alors c'était peut-être plus le cas pour Sauf qui peut la révolution, mais est-ce que vous vous posez ce problème-là ou est-ce que vous dites au fond le romancier a toutes les libertés?
Le personnage principal, le narrateur, est historien. Et donc, c'est aussi une méditation à des moments sur... Il se pose la question, est-ce qu'il est plus facile d'enquêter sur quelqu'un comme Ava Gardner, ou comme, sur quelqu'un comme Danton, comme dans le premier roman, où finalement on n'a pas grand-chose non plus. Il se rend compte qu'il y a les mêmes manques et les mêmes incertitudes qui peuvent être le point de départ à la fiction ou à sa propre rêverie. Et là, par rapport aux historiens, non, je n'étais pas trop inquiet, non.
Parce que ce qui est absolument formidable, c'est que quand on tire un fil, toute la pelote vient avec. C'est-à-dire que Ava Gardner, c'est pas seulement la star qu'elle était, c'est toute une époque. C'est Hemingway, c'est Fidel Castro, c'est Frank Sinatra avec qui elle a été mariée. Qui dit Frank Sinatra dit lien avec la mafia, dit FBI. Enfin, il y a tout ça qui vient avec.
Mais en vérité, j'étais moins inquiet par la réaction des historiens que par celle de la mafia sicilienne. Puisque la mafia, via Frank Sinatra, apparaît dans le livre, puisque Frank Sinatra avait des mauvaises fréquentations et un amour fou pour Ava Gardner, puisque c'est une passion, ils se sont séparés et retrouvés des centaines de fois. Mais c'est vrai qu'Ava Gardner a passé une nuit avec Fidel Castro, ça se vérifie aussi dans plusieurs ouvrages, dont je pourrais vous indiquer les références à la fin de cette rencontre. Et elle a rencontré donc Hemingway, Sinatra. On se rend compte que Sinatra était proche des Kennedy. Les Kennedy, Giancana, donc Giancana qui était le grand chef mafieux de Chicago, a essayé. Kennedy et Giancana se sont associés pour essayer d'assassiner Castro avant que Giancana participe probablement avec le FBI à l'assassinat de Kennedy. Donc tout ça, en fait, ces photographies de nu d'Ava Gardner me permettaient aussi d'explorer tout un pan de l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle.
Et Castro a rencontré Hemingway et vous imaginez que Hemingway montre les fameuses photos à Fidel Castro ?
Il semblerait qu'ils ne se soient rencontrés qu'une seule fois, Castro et Hemingway, lors d'un tournoi de pêche, que Castro, en trichant, parce que ce n'était pas du tout un pêcheur, aurait gagné. Et il y a plusieurs photographies qui remontent, ça on peut trouver ça sur Internet facilement, qui immortalisent cette rencontre entre les deux. Et j'imagine que celle-ci s'est prolongée durant la nuit et que Hemingway aurait montré la photographie d'Ava Gardner reprenant la pose de la Vénus d'Urbino du Titien.
Mais alors, ce qui est fascinant dans ce roman, c'est que ces fameuses photographies qui sont le cœur du moteur, qui sont le cœur de l'enquête, on ne les voit jamais, c'est-à-dire que vous ne les décrivez pas.
Non, mais on tourne autour constamment. Alors, je sais que certains lecteurs ont été voir, parce qu'on ne connaît pas tous ni la Vénus d'Urbino, ni la Maja Desnuda de Goya. L'origine du monde, je pense que tout le monde en a une représentation. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'est au cœur de mon projet littéraire d'écrire autour, à côté ou dans les marges des images. Pour reprendre aussi une formule de Godard, c'est-à-dire Godard aimait beaucoup parler de la légende dans le double sens, c'est-à-dire le commentaire sur l'image et aussi la dimension légendaire de conte. Et je crois que mon projet suit cette définition de la légende.
Mais c'est aussi un livre, au fond, sur le désir, enfin, le désir généré par les images. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'ellipse. Voilà, l'ellipse crée le désir d'en savoir plus, d'en voir davantage.
Oui, au centre du livre, il y a le désir de voir et de dévoiler, puisque l'origine du monde, c'est une photographie du dévoilement, mais une photographie... Enfin, une photographie, j'en fais un lapsus. Du moins, c'est une image qui a été voilée, puisque Courbet a dû faire un cache, c'est-à-dire une espèce de château en hiver. Et puis après, Lacan a demandé à son ami André Masson de refaire un cache. Chez Khalil Bey, lorsqu'il était dans son cabinet de toilette, le tableau était dissimulé derrière un rideau vert, je crois. Et donc, c'est une photographie qui était... Une photographie, encore, décidément.
Une peinture.
C'était une image, un tableau, qui était destiné à être voilé. Et dans le roman, il y a cette même tentative de voiler et de dévoiler dans le même mouvement.
De même que ces fameuses photos d'Ava Gardner ont été voilées, dissimulées. Il y a eu un cache aussi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le chef opérateur donc, va dissimuler l'image de l'origine du monde sous une autre photographie. Une photographie d'un autre film qu'il a réalisé avec Ava Gardner qui s'appelle Le Dernier Rivage, qui n'est pas le film le plus important d'Ava Gardner, mais qui raconte, c'était en pleine guerre froide, qui raconte la fin de l'humanité lors d'une guerre nucléaire. Et le chef opérateur trouvait amusant de dissimuler une image de l'origine du monde derrière l'image de la fin du monde.
Mais ce jeu de voiler-dévoiler, ce jeu de la dissimulation, on pourrait dire aussi ce jeu de strates, de palimpsestes, il est vraiment au cœur de votre projet d'écriture et même à l'origine, je crois, puisque vous êtes également plasticien, à l'origine de vos travaux en art plastique.
Oui, dans mes travaux de plasticien, c'était, j'en parle au passé parce que c'est un petit peu lointain maintenant, c'est essentiellement lié aux projections, au transport de l'image et au cinéma. Donc le cinéma a quand même toujours été présent. Et c'est vrai, comme vous dites, il y a cette notion de palimpseste, de recouvrement, de différentes couches. Et dans ce livre aussi, on peut parler de palimpseste puisqu'on traverse, on griffe, on décape différentes épaisseurs du temps. Jusqu'à en faire revenir certaines au premier plan et d'autres les enfouir. Donc le mot palimpseste me va très bien, oui.
J'ai lu dans le Matricule des Anges, hein, parce que vous avez donné un grand entretien au Matricule des Anges, que l'un de vos premiers travaux de peinture, c'était, on pourrait dire, une toile impossible, hein, là encore, où vous, sur la même toile, vous recouvriez et à chaque couche, vous preniez en photo pour garder uniquement la trace photographique.
Oui, alors ça, c'est vraiment... c'était à l'époque où j'étais étudiant en Beaux-Arts, donc ça remonte à quelques années, on va dire. Et je suis toujours un très mauvais peintre, mais j'avais ce projet un peu borgésien, me dire, tiens, je vais faire qu'une seule toile dans ma vie, toujours la même. Donc je faisais une toile, je barbouillais, et puis après je grattais, et puis je repeignais par-dessus, et donc l'autre image apparaissait, et puis à un moment la toile devenait impeignable, je ne sais pas si on peut employer ce terme, et donc je retendais une toile dessus, je peignais au dos, et ça devenait une espèce de, au bout d'une cinquantaine de versions, une sorte d'objet un peu lourd, mais j'ai arrêté parce que j'avais vraiment aucun talent de peintre, mais c'était dans cette idée de ce serait peut-être presque une fiction, on pourrait imaginer une nouvelle de Borges d'un peintre qui ne serait l'auteur que d'une seule peinture, de 10 000 tableaux et d'une seule peinture.
Mais alors, je ne dirais pas que vous êtes l'auteur d'un seul livre, mais en tout cas, on remarque, au-delà de ce personnage de Jacques Pierre qui revient dans le deuxième livre, on remarque des liens très forts entre les deux livres et on a l'impression que voilà, vous construisez une architecture peut-être plus vaste. Alors, je ne sais pas si le projet est là depuis le début ou si ça se fait comme ça un peu par hasard. Mais...
Non, ça s'est fait un peu par hasard, puisque au départ, je ne pensais pas du tout que Jacques Pierre allait réapparaître dans ce roman. Et c'est vrai que, peut-être pour d'autres projets à venir, ça me plaît assez que certains personnages ou certains faits ou une toute petite anecdote d'un des romans puissent après, en zoomant dessus d'une certaine manière, être le point de départ d'un autre récit. Et donc, il n'est pas impossible qu'une petite anecdote de celui-ci devienne, dans quelque temps, autre chose.
Vous avez commencé par écrire de la poésie. Comment la poésie irrigue vos romans ?
Alors le recueil de poésie s'appelait Retard légendaire de la photographie. Donc on retrouve, je suis assez constant et assez obsessionnel quand même dans mes obsessions, on retrouve l'intérêt pour la photographie et le mot légendaire que j'évoquais tout à l'heure. C'était un point de départ parce que j'écrivais la poésie, c'est beaucoup plus simple à écrire. Enfin, beaucoup plus simple à écrire, ça peut se faire un peu en dilettante. Et c'est au moment où le Flammarion a bien voulu publier ce recueil de poèmes que je me suis dit peut-être que ça m'a, comment dire, donné l'autorisation d'écrire et de m'engager dans un projet plus ambitieux qui était Sauf qui peut la révolution.
Et la photographie, parce que tout à l'heure vous répondiez sur la découverte par votre narrateur de la photographie, mais vous-même.
Mon grand-père était photographe et tenait en province un magasin de photo-cinéma. Et d'ailleurs, il y a un portrait déguisé de mon grand-père dans le livre sur le photographe qui va former le narrateur. Et donc, j'ai des souvenirs d'enfance, effectivement, de l'odeur du révélateur, de la lumière rouge, du studio de prise de vue. J'ai des sensations encore très fortes du studio de mon grand-père, du laboratoire. Donc, je pense que là, il y a une part biographique, oui.
Est-ce que pour écrire ce livre, vous avez revu tous les films d'Ava Gardner? Donc,
oui, même les très mauvais.
Même les très mauvais, parce qu'il y en a beaucoup, en fait.
Beaucoup de très mauvais, oui.
Elle n'a pas fait que des chefs-d'œuvre.
Elle n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Il y a 4-5 très grands films, quand même, où elle est absolument superbe, et les films sont de qualité. Il y a la Pandora, qu'on citait tout à l'heure. Il y a la Comtesse aux pieds nus, de Mankiewicz. J'aime beaucoup La nuit de l'iguane. J'évoque un peu le tournage parce que je crois que le tournage était presque aussi intéressant que le film. C'était tourné sur la côte pacifique du Mexique. Et c'est là, dans le roman, qu'Ava Gardner, John Huston et les autres acteurs apprennent l'assassinat de Kennedy en novembre 1963. La nuit de l'iguane est un très beau film. Ce qui est intéressant chez Ava Gardner, c'est qu'il y a beaucoup de ses rôles qui ressemblent à sa vie. La comtesse aux pieds nus, l'histoire de Maria Vargas, c'est presque son histoire à elle, puisque c'est une petite paysanne de Caroline du Nord qui a été découverte un peu par hasard par Hollywood. Il y a un texte d'Edgar Morin qui date du début des années 70 qui s'appelle Les Stars, où il parle d'Ava Gardner d'une manière extrêmement juste, et ça m'a beaucoup intéressé. Il dit que Ava Gardner, dans tous ses films ou presque, elle a toujours du sang mêlé. Elle a soit du sang français, espagnol, soit elle est à moitié indienne, même noire, comme si Hollywood n'arrivait pas à intégrer sa part de sauvagerie, d'animalité ou d'étrangeté. Et je crois qu'il y a ça chez Ava Gardner. Et finalement, dès qu'elle a pu, elle est venue s'installer en Europe, à Madrid, puis à Londres. Sa liberté faisait peur, je pense, à Hollywood. Et le slogan de la MGM était le plus bel animal du monde, ce qui est quand même, quand on y pense aujourd'hui, le plus bel animal du monde, ce qui est assez étonnant.
C'est ça, c'est-à-dire que alors, ce livre n'est évidemment pas une biographie d'Ava Gardner, mais il y a quand même quelques détails sur sa vie, et on voit comment elle a été traitée. Alors vous le disiez, elle était un peu prisonnière de la MGM, elle voulait à tout prix s'en libérer. On a dit d'elle, en effet, le plus bel animal du monde. On disait elle a son sexe sur le visage. Enfin, son ex-mari disait, de toute façon, elle sera toujours une fille de ferme. Enfin, c'était très, très dur.
Oui, non, c'est un personnage qui était aussi assez... plus qu'intéressant dans sa biographie, puisque c'est aussi une lente descente, et on le voit dans la couverture que nous avons choisie. On voit, c'est pas Ava Gardner, en couverture, c'est un tableau du très grand peintre allemand Gerhard Richter qui peint flou et qui s'inspire de la photographie, qui joue sur les ambiguïtés entre photographie et peinture. Et donc on voit une femme comme ça qui descend les escaliers, et non pas un nu descendant l'escalier puisqu'elle est habillée, mais Ava Gardner, toute son histoire, c'est une forme de descente, de descente vers les gouffres, mais avec une suprême élégance.
Avec panache, quand même.
Avec panache, oui, tout à fait.
Voilà.
Et je repensais à ça tout à l'heure aussi. À l'origine du livre, en fait, j'avais lu qu'un écrivain que j'aime beaucoup, Pierre Michon, dans son livre La Grande Beune, avait pris comme modèle pour la buraliste dont le narrateur était amoureux, son modèle, il avait au-dessus de son bureau des photographies d'Ava Gardner. Et La Grande Beune, son titre de travail au départ, c'était L'Origine du Monde. Et donc ça m'a aussi, d'une certaine manière, permis je me suis dit que c'est pas si absurde que ça, ce rapprochement.
Comment avez-vous écrit les passages qui concernent Gustave Courbet? Parce qu'on est vraiment dans les coulisses de la création.
À mon ordinateur ou avec...
Voilà, comment vous avez réfléchi à la manière dont travaille un peintre?
Je crois que ça vient aussi là de ma formation de plasticien. Et puis, j'ai lu pas mal de choses sur Courbet. Mais au moment de l'écriture, vraiment, comme je le disais, je laisse ça de côté. Et puis là, c'est la fin de la vie de Courbet aussi. Un peu comme c'est la deuxième partie de la vie d'Ava Gardner. C'est le moment où Courbet est exilé en Suisse après la Commune, puisqu'il est accusé d'avoir déboulonné la colonne Vendôme. Et la Seconde République, ce moment du début de la Seconde République, qu'on appelle souvent la République sans les Républicains, lui demande des remboursements absolument extravagants. Et Courbet est sur les bords du lac Léman, où il boit, il paraît-il, 10 litres de vin du Jura par jour. Essayer de boire 10 litres d'eau, c'est déjà compliqué. Et il a ces deux aides qui maçonnent à la chaîne des paysages de Suisse, qu'il essaye d'écouler comme il peut pour essayer de rembourser en espérant un hypothétique retour en France qu'il ne reverra pas, puisque l'amnistie des communards ne sera qu'en 78 ou 79. Et lui meurt dans le 31 décembre 1877 en Suisse.
Parce qu'au fond, c'est ces deux personnages extrêmement flamboyants, vous les prenez à un moment où ils sont un peu sur la pente descendante, et on a l'impression qu'il y a quand même une mélancolie souterraine à l'œuvre.
Oui, Courbet, c'était, je crois, c'était une espèce de force de la nature, quelqu'un de très joyeux, mais comme vous savez, beaucoup de gens un peu trop gais, qui peuvent dissimuler derrière cette gaieté d'apparence une sourde mélancolie, ou du moins un certain désenchantement par rapport à la vie. Je pense que Courbet n'était pas dupe de ça. Quand il est en Suisse, plutôt malheureux, il écrit à sa sœur Juliette qu'il est au paradis, qu'il ne s'est jamais senti aussi bien alors qu'il est malade, qu'il a une cirrhose et que voilà. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement attachant. Et puis c'était un personnage totalement fanfaron. Mais un fanfaron plutôt un fanfaron qu'on pourrait voir dans les films italiens. Par exemple, quand il a fait le portrait de Berlioz, qui n'était pas quelqu'un de très drôle, je crois, Berlioz, et pendant qu'il faisait le portrait de Berlioz, il chantait des airs d'opérette comme ça, et Berlioz le regardait un peu, et Courbet lui apprenait la musique, quoi, à Berlioz. Quoi. Donc je trouvais ça extrêmement touchant chez le personnage.
Est-ce qu'on peut relier l'itinéraire politique de Courbet avec une forme de désenchantement de l'engagement d'extrême gauche que vous questionnez avec Jacques Pierre et son ex-femme Ariane, qui a été engagée dans les mouvements d'extrême gauche et puis là, qui, au moment où se passe le livre, est venue s'installer pour monter une espèce de guinguette marxiste-léniniste sur l'île de Chalonne,
qui s'appelle le Lénine Café. Voilà. Et si vous allez sur l'île de Chalonne, vous verrez que tout est vrai, puisqu'il y a effectivement une guinguette, le Lénine Café, qui est remplie de vestiges de l'ex-Union soviétique. Donc il y a des portraits de Marx, de Lénine, des toutes bouteilles CCCP. Enfin voilà, c'est en pleine Anjou, la douceur angevine, et donc c'est assez étonnant. Et le narrateur, oui, et revient à l'occasion de cette enquête sur sa propre jeunesse et militante, puisqu'il avait 20 ans en 68, et sur sa participation à divers groupuscules maoïstes juste après 68. Et il est lui aussi un peu désenchanté quand, à un moment, pendant les grandes grèves de 95 contre le plan Juppé, donc au moment de l'histoire du roman, il se trouve entraîné comme ça par les flots de manifestants à Nantes, et il se rend compte un peu de l'absurdité de son parcours, puisque de ses idéaux généreux de 20 ans, enfin, il est passé de ses idéaux de la révolution à venir à la quête du sexe d'une actrice hollywoodienne, quoi. Donc il trouve ça lui-même ça quelque peu pathétique.
Et puis il me semble qu'avec ce personnage, vous vous interrogez aussi la question de la transmission entre les générations, puisque lui revient à la mort de son père, qui est survenu juste avant le départ du pouvoir du général de Gaulle, hein, enfin vraiment quelques heures avant. Peut-être que vous voulez répondre là-dessus.
Oui, non, c'est que le père du narrateur était un fervent gaulliste, voilà. Et effectivement, une crise cardiaque salutaire lui a permis d'éviter d'affronter le départ du général après le référendum de 69. Oui. Mais oui, le narrateur, parce que le narrateur revient sur ses relations avec son père et sur cette transmission qui s'est qui ne s'est pas faite, son père ne comprenant évidemment pas ses engagements gauchistes d'avant 68. Et il repense beaucoup effectivement à son enfance, à ses parents et à cette relation qui n'a pas eu lieu avec son père, oui.
Mais en revanche, il a une relation avec sa fille qui est fort intéressante, hein, relation qui était déjà là dans Sauf qui peut la Révolution. Et ils vont vraiment mener cette enquête ensemble jusqu'à regarder ensemble au dénouement de l'enquête cette image impossible, qui est une scène absolument,
oui,
absolument impossible.
Sans vraiment dévoiler la fin, le roman finit sur le père, donc Jacques-Pierre, et sa fille, qui est âgée de 25 ans, qui dévoile la photographie, là, cette fois-ci, de ce qui serait l'origine du monde et de ce qui serait Ava Gardner. Et le livre s'achève sur ce double regard du père et de la fille devant cette image d'origine.
Voilà, mais cette relation père-fille, c'est aussi un motif important du livre.
Oui, mais Rose dans le... Rose au Raymond
Rose Ava.
Oui, Rose Ava, parce que ça, c'est dans le premier roman. Jacques donne comme deuxième prénom à sa fille Rose, celui d'Ava. Il a hésité longtemps entre Ava ou Chung Ching, je crois, qui était le nom de la femme de Mao. Et Rose lui a toujours été reconnaissante de ne pas avoir apposé les stigmates de sa jeunesse maoïste entre son prénom et son nom de famille. Et oui, cette relation père-fille est extrêmement importante. Oui. Et moi, j'ai une fille qui a presque l'âge de Rose, donc il y a peut-être quelque chose comme ça aussi qui se jouait.
Mais le père et la fille vont mener ensemble une enquête échelée. Enfin, j'ai insisté au début du roman sur la rapidité de votre écriture. Voilà, il y a quelque chose qui file à toute allure. Est-ce que vous l'avez écrit d'une traite, justement, pour garder cette énergie-là, ce rythme-là?
Je l'ai vraiment écrit du début à la fin, dans l'ordre. C'est-à-dire que j'avais un premier découpage avec ce qui était de l'histoire d'Ava Gardner et des photographies, et l'histoire de l'origine du monde et de Courbet. Et quand le narrateur Jacques-Pierre s'est imposé, j'ai senti que... Parce que le risque d'avoir plusieurs films narratifs, c'est de perdre aussi le lecteur, quoi. Et donc j'avais besoin, pour garder la fluidité, d'aller vraiment dans l'ordre. Et toute la jeunesse de Jacques-Pierre s'est inventée au fur et à mesure. Et ça, je pense que dans le mode opératoire, c'était essentiel. Et ce que vous dites sur la vitesse est extrêmement important. J'ai vraiment eu le souci d'aller très vite à des moments, ce qui est de l'ordre de l'information, et puis de musarder plus à d'autres. Donc c'est tout un dosage, un réglage assez fin de différents types de vitesses à l'intérieur même du régime de la langue.
Parce que là encore, on peut revenir au langage du cinéma. Quand je lisais tout à l'heure le passage sur Courbet, c'est frappant de voir la manière avec laquelle vous entrez dans un chapitre. C'est-à-dire que la scène, on la prend par le plan large.
Oui, alors peut-être que c'est des réminiscences cinématographiques, mais ce changement de focale, on peut parler, je pense, de changement de focale pour glisser d'une époque à une autre à l'intérieur d'un chapitre. Ce qui permet de... Vous avez employé le mot ellipse tout à l'heure, mais l'ellipse que le cinéma pratique beaucoup est quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi pour l'écriture, pour générer de la vitesse, justement, et générer un rythme propre au roman.
Parce que, enfin, si on revient au livre précédent, vous mettiez des morceaux de scénario, enfin voilà, il y avait des références plus directes au cinéma.
Dans le premier roman, il y avait la volonté, c'est peut-être comme de mêler plusieurs types d'écriture, puisqu'il y avait à la fois des scénarios de Godard, donc vous voyez à peu près à quoi peut ressembler ou ne pas ressembler des scénarios de Godard. Il y avait des échanges de lettres entre Rose et le cinéaste, donc on était plutôt du côté du roman épistolaire. Il y avait des sortes d'aphorismes, justement, de Godard, des poèmes, des choses qui étaient de l'ordre vraiment du récit. Donc ça me permettait de mêler, et c'est ce qui est intéressant dans le roman comme genre impur aussi, de mêler plusieurs types de langues. Mais dans celui-ci, je voulais vraiment qu'il n'y ait qu'une seule langue qui soit la même du début à la fin. Oui.
Quels sont parce qu'on parle beaucoup de références cinématographiques, mais quelles sont vos filiations littéraires, si toutefois vous en revendiquez certaines?
Ça dépend des jours. C'est toujours un peu compliqué, mais je pense que si j'ai commencé à écrire un premier roman assez tard, c'est parce que pendant peut-être 20 ans, j'ai beaucoup lu et j'étais absolument paralysé par des admirations et par des auteurs que j'aimais. Et ça a été, je pense, très long, parce que j'ai quand même toujours écrit, mais avant de me permettre à moi-même de pouvoir écrire sans me dire que c'était, sans me comparer en fait à ceux que j'admirais, et d'essayer de trouver ce qui serait l'ordre d'une voix un peu mienne. Mais bon, des gens dans la littérature française, des gens comme Michon m'ont intéressé, je crois que l'écrivain que je lis toujours avec le plus d'étonnement, en me demandant toujours comment il a pu faire ça, c'est William Faulkner, je crois. Absalon, ou les palmiers sauvages, je trouve ça assez exceptionnel parce que ça me semble absolument infaisable.
Mais on a le sentiment que dans votre méthode, il y a quelque chose d'un peu expérimental, et au final le résultat à la lecture ne l'est pas du tout. Enfin,
je l'espère en tout cas. J'ai un certain plaisir, une certaine jubilation à écrire, qui j'espère d'une certaine manière peut quelque peu infuser dans le texte.
Et puis l'humour, quand même, parce qu'il faut dire que ce livre est extrêmement drôle.
J'espère aussi. Mais
je parlais beaucoup de mélancolie, mais voilà, il y a cet aspect-là aussi des choses.
Ça permet d'être contrebalancé aussi la dimension mélancolique du livre. Et puis, parler à la fois de Sinatra, de Kennedy, de l'origine du monde, du Second Empire, de la Commune, de la Guerre froide, de la Belle et Cochon. Il faut un peu d'humour pour que ça puisse passer quand même, je pense.
Ça donne le vertige parfois.
Peut-être, oui.
On parlait de la réflexion sur les images. Au fond, l'une des questions qui traverse ce livre, c'est vraiment celle de la survivance, la dimension temporelle des images. Là aussi, on revient sur cette histoire de couche. Une image, elle est aussi faite des souvenirs qu'on en a, peut-être d'autant plus si cette image est une image fantôme.
Alors oui, c'est à la fois une rêverie et un travail de réminiscence sur les images et le rapport que les images entretiennent avec le réel, comme toute représentation. Et dans le cas de la photographie, on est bien dans un rapport indiciel au réel. Je parle de la photographie argentique en tant qu'empreinte. Qu'est-ce que ça veut dire une photographie du sexe d'Ava Gardner, au fond ? Voilà cette espèce de photographie impossible. Et qui renvoie à des choses qu'on connaît bien, comme le mythe de Méduse aussi. Ces images qui sont des images qui suscitent et le désir et l'effroi.
Parce que là, en l'occurrence, c'est l'image manquante.
C'est l'image manquante, oui. Ça pourrait être un très bon sous-titre du roman, l'image manquante. L'image manquante. Ouais. Je repensais aussi à Pascal Quignard, qui était là, je crois, hier ou avant-hier, qui disait « L'homme est celui à qui une image manque ». Et je crois que le narrateur de ce livre est bien cet homme-là à qui une image manque.
Est-ce que vous projetez, on parlait tout à l'heure de cette architecture plus vaste, est-ce que vous projetez de la faire grandir ?
Oui, ça, c'est des petits fantasmes de romancier, mais effectivement, d'avoir des livres ou des textes qui se répondent et qui construisent non pas la comédie humaine mais un monde un tout petit peu cohérent avec des personnages qui glissent d'un livre à l'autre. Oui, c'est quelque chose qui m'amuserait assez.
Est-ce que vous avez des questions à poser à Thierry Froger, des curiosités sur Ava Gardner, sur Gustave Courbet?
Voilà. Merci.
Non, on se demandait si on lisait encore un petit extrait du livre. Oui, voilà. Mais je voulais choisir alors, Thierry.
Je vais mettre mes lunettes.
C'est pas la même édition, je suis un peu perdu. Ah mince. Vous préférez Gustave Courbet ou Ava Gardner? Ava Gardner, bien évidemment.
Peut-être au passage avec Marilyn Monroe et Ava Gardner.
Ah mais oui, mais je sais plus où il est.
J'aurais dû préparer avant.
Ouais.
Là, peut-être.
Voilà. Justement, ah voilà, Chalimard, là, voilà. En fait, on cherche un passage, parce que voilà, c'était une question que je voulais vous poser, j'ai plus pensé, est-ce que cette rencontre entre Ava Gardner et Marilyn Monroe a vraiment eu lieu?
Oui, alors on va finir avec ça. Il y a effectivement dans le livre une rencontre entre Ava Gardner et Marilyn Monroe, et ça a vraiment existé, puisque c'est Courbet a peint le tableau de cette rencontre. C'est le tableau qui s'appelle, il a plusieurs titres, on l'appelle Le Sommeil ou Luxure et Paresse, ou Ava et Marilyn, enfin il y a plusieurs titres, vous verrez dans le catalogue raisonné du musée d'Orsay. Et donc elles se sont effectivement rencontrées et ont passé une nuit ensemble, puisque le FBI a recensé Ava Gardner parmi les conquêtes de Marilyn Monroe. La brune et la blonde étaient maintenant assises à même le sol de la terrasse, blotties l'une contre l'autre, la bouteille vide à leurs pieds nus. On aurait dit deux collégiennes qui auraient fugué après avoir emprunté les robes de soirée de leur mère, élégantes et pourpres pour Ava, blanches, décolletées jusqu'au nombril pour Marilyn. Elle riait en parlant des hommes que la brune avait mis dans son lit et des mêmes qui avaient mis la blonde dans les leurs. Marilyn pouffait et rougissait aux propos volontiers triviaux qui jaillissaient des lèvres délicates d'Ava. Cruelle et drôle, quand elle parlait des défaillances des uns, des gros calibres de quelques autres, des manies et disgrâces honteuses de la plupart. Sans préavis, la brune a ensuite embrassé la blonde à pleine bouche, puis elles se sont éclipsées, laissant la totalité des invités, abrutis par le Dom Pérignon et par ce qu'ils avaient cru voir, mais dont ils n'étaient plus très sûrs, la Vierge ou le Diable, ou le messager des enfers soufflant dans les trompettes du paradis, sans qu'un micro ne soit branché, ni une caméra chargée. Les meilleurs films ne sont-ils pas ceux qui rapportent moins d'or que de rêves et auxquels on s'efforce de croire, quand bien même ils n'existent pas? Les deux actrices ont fini dans les draps de neige, où Courbet a jeté des taches roses, des rougeurs et des pâleurs, un petit bouquet en haut à droite pour répéter les pétales, l'assoupissement des fleurs. Ava Gardner était l'homme dont Marilyn avait besoin, et Marilyn, la femme bébé qu'Ava aurait aimé cajoler, gronder, couver, dessiller. Tous les oppose jusqu'à les faire se ressembler, se mélanger sur une couche que la lumière éclaire sans honte ni pudeur, puisqu'elles sont des anges qui transpirent à notre place et nous distraient adorablement des gouffres. Elles nous sauvent des gouffres, elles sont les gouffres. Merci.
Merci beaucoup Thierry Froger, merci à tous pour votre attention et donc nous vous invitons à une séance de signature juste à côté, vous avez l'habitude. Merci.